Le débat du jour, Bruno Faure.
Bonjour, bonsoir. Depuis environ 20 ans et la libéralisation des transferts dans le football, leur montant ne cesse d'augmenter. Le cas Neymar au PSG n'est que le plus spectaculaire. Dans le même temps s'envolent les salaires des joueurs, le prix des maillots pour les supporters, le prix des places dans les stades et par ricochet les droits que paient les chaînes de télévision pour retransmettre les matchs. Dans le contexte des affaires de corruption qui se multiplient, certains parlent d'une bulle financière qui serait prête à exploser. Faut-il davantage réguler ce marché? On donne le coup d'envoi sans plus attendre avec nos débatteurs. RFI. Bonjour Philippe Diallo.
Bonjour.
Vous êtes un personnage important du football français, ce n'est pas pour vous flatter. Vous êtes le directeur général de l'Union des clubs professionnels, certains disent le patronat du foot français. Vous travaillez aussi à la FIFA, vous êtes juge unique, ça veut dire quoi en quelques mots?
Ça veut dire que j'ai la responsabilité de trancher un certain nombre de conflits entre des joueurs et des clubs dans le cadre de transferts internationaux.
Merci. Bonjour à Pierre Rondeau.
Bonjour.
Économiste du sport, professeur à la Sports Management School, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont celui paru l'an dernier, Coup franc, coup s'écrivant C-O-U, accent circonflexe, T. Bien oui, ça coûte cher si l'on veut gagner des trophées. Pierre Rondeau, vous pensez qu'on est entré dans une bulle spéculative. Vous voulez lutter contre l'idéologie de l'argent et de l'ultra-libéralisme. Pourquoi?
L'idée, c'est pas considérer qu'on est entré dans une bulle depuis l'arrivée de Neymar ou depuis justement ce transfert mirobolant. On est déjà dans une bulle depuis une vingtaine d'années, justement, vous l'avez dit, depuis cette libéralisation, depuis l'arrêt Bosman, qui a libéralisé justement ces transferts à échelle européenne, échelle mondiale. C'est les sommes, si vous voulez, moi, c'est les sommes et l'endettement du football qui m'inquiète. On parle quand même d'une dette footballistique pour les clubs européens, de toutes les premières divisions en Europe, de plus de 12 milliards d'euros, donc ce qui est assez important. Et donc il faudrait penser à une régulation. Alors je ne veux pas imposer un contrôle étatique ou une nationalisation comme certains auraient pu en parler, mais en tout cas une régulation pour favoriser le modèle économique du football, pour le pérenniser, pour le rendre stable et solvable, et pour éviter justement que cette dette qui continue et qui ne cesse d'augmenter depuis une vingtaine d'années devienne dangereuse et inquiétante.
Des clubs endettés, c'est votre faute, Philippe Diallo.
Oui, mais si vous me permettez, je partage pas tout à fait le constat qui vient d'être fait, parce que ni votre terme de bulle. Je ne crois pas qu'on a affaire à une bulle, et encore moins à une bulle spéculative. Au contraire, moi je pense que depuis une vingtaine d'années, on assiste à un développement extraordinaire du football, sur tous les continents, qui génère effectivement beaucoup plus de ressources, que ce soit en droit audiovisuel, que ce soit en sponsoring, et que, assez naturellement, le fait d'avoir plus de ressources fait que l'argent qui est distribué aux acteurs, que sont les joueurs, est plus important. Donc je n'ai pas, de ce point de vue-là, d'inquiétude. Et je vais même vous dire, ça va peut-être vous choquer, je pense que dans les 10 ou 20 prochaines années, les montants vont être encore plus importants. Donc parce que nous sommes dans une phase de mondialisation et que la Chine, l'Inde, les États-Unis, plus d'autres acteurs, les Facebook, les Google, vont arriver dans le monde du football et que les sommes vont encore s'envoler.
Donc tout va bien, Pierre Rondeau.
Tout va bien. Alors c'est vrai que si on se focalise uniquement sur les ressources économiques et les rentrées financières, tout va bien. Ça, c'est indéniable. On a plus de 400% depuis une vingtaine d'années.
C'est pas mal pour un secteur
chiffre d'affaires. C'est extrêmement bien. Mais on a, pour un secteur économique et pour une entreprise comme une autre,
absolument,
il faut aussi s'intéresser aux ressources, mais aux dépenses. Et c'est vrai qu'au niveau des dépenses, je parlais de 405% de croissance sur 20 ans, en termes de ressources économiques, mais en termes de dépenses, et notamment de la masse salariale, on a une augmentation de 475%. Donc la croissance de la masse salariale est supérieure à la croissance des revenus.
Ça, c'est pas un problème, Philippe Diallo ?
Je dirais que j'aurais une réponse, si vous le permettez, en deux temps. C'est-à-dire que d'une part, je pense qu'il faut, si on se met d'accord sur le fait déjà que le football est en croissance, et de manière très importante, c'est déjà une bonne nouvelle. Et encore une fois, à commencer pour les joueurs. Ensuite, on est en sport, et contrairement, je pense, au monde des entreprises en général, et c'est là que je rejoindrai Pierre Rondeau, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il y a nécessité d'une régulation. Mais on n'a pas attendu le transfert de Neymar pour penser à ça. Le fair play financier, mis en place par Michel Platini il y a déjà quelques années, est un élément de régulation qui a d'ailleurs permis de faire décroître la perte des clubs de première division de l'ordre de 1,5 milliard lorsque Platini est arrivé à aujourd'hui un équilibre en Europe.
On va revenir un peu plus tard sur les dispositifs de régulation. c'est vrai, Pierre Rondeau, que les joueurs, ça n'est pas ce ne sont pas des hommes comme les autres. Leur valeur n'est déterminée que par ce que les clubs décident, et surtout par leur valeur théorique de revente.
Déterminée par un marché, par une offre, par une demande. On a à la fois le salaire, mais aussi la valeur du transfert, qui est aussi déterminée sur ce marché. Alors oui, on pourrait considérer que vu que le football prend de l'ampleur, vu que le football prend de l'importance, que c'est un sport monde par excellence. Je précise quand même qu'il y a plus de 3 milliards de personnes sur Terre qui s'intéressent au foot. Donc forcément, 3 milliards de spectateurs, de supporters, c'est 3 milliards de consommateurs potentiels. On parle des Indiens, des Chinois, des Américains, des Africains, des Européens, des Asiatiques. Forcément, plus il y a de monde, plus il y a d'argent. Ça, c'est indéniable. Le souci, l'un des soucis majeurs, c'est que cet argent, justement, qui entre dans le football, moi, je veux être sûr, en tant qu'économiste, qu'elle soit bien exploitée, bien dépensée et bien représentée. Pourquoi, par exemple, sur un marché footballistique, on a des écarts de rémunération si astronomiques en comparant deux footballeurs qui... Toute chose égale par ailleurs. Alors effectivement, tout le monde va être d'accord pour dire que Neymar est excellent. Mais de là à être payé 100 fois plus qu'un autre joueur, est-ce qu'il est véritablement 100 fois meilleur
Philippe Diallo, il y a des joueurs effectivement qui gagnent à peine 1000 euros par mois. Ça peut paraître beaucoup dans certains pays, mais vu d'Europe, 1000 euros par mois, c'est pas grand-chose.
Tout à fait, mais vous avez introduit une bonne nuance. Le football, lorsqu'on parle de 1000 euros par mois, effectivement, ça n'a pas la même signification si on joue au Kenya, si on joue au Vietnam, au Pérou, ou si on joue en Allemagne.
Mais bon. Quand on compare
Pendant Neymar, c'est parce que le marché du football, le marché du travail, il est très particulier. C'est un marché de talent. Et le talent, ça ne se substitue pas. C'est-à-dire que c'est la raison qui fait
Neymar,
que...
Neymar, il a 400 fois plus de talent.
Mais ça veut dire qu'en tout cas, ceux qui sont prêts à l'embaucher, ils embauchent un talent. Et d'ailleurs, vous-même, vous citez Neymar. Qu'est-ce qui s'est passé en France cet été? La France a été inondée de Neymar sur tous les médias, partout dans le monde, sur le nom de Neymar. Eh bien ça a une valeur, et le Paris Saint-Germain en l'espèce a été capable de payer cette valeur-là. C'est un peu la même chose que dans le monde du cinéma. Lorsque Gérard Depardieu ou un Tom Cruise fait un film, il n'a pas le même salaire que le figurant. Et c'est exactement la même chose. On paye les stars, on paye le talent.
Alors, donc on peut rien faire finalement, Pierre Rondeau.
Alors on peut payer le talent, c'est vrai, mais ce qui est très intéressant, alors c'est sûrement lié aussi au marché du spectacle et au justement au secteur du cinéma ou de la chanson. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va me dire c'est le talent uniquement qui prime. Sauf que quand on regarde un peu plus en amont dans ce marché footballistique, on constate que il y a des paramètres extra-sportifs qui sont aussi importants que les paramètres sportifs. On a montré par exemple que la beauté allait jouer sur la valeur financière d'un joueur. La nationalité. Par exemple, toute chose égale par ailleurs, un Brésilien ou un Argentin coûtera toujours plus cher qu'un Lituanien ou qu'un Hongrois, par exemple.
Le marché aux esclaves, Philippe Diallo, là.
Ça me paraît un peu excessif. Vous parliez vous-même de sommes très importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de salariés en France qui aimeraient être esclaves comme les footballeurs professionnels.
Quand on dit celui-là, il est brésilien, il vaut plus cher
Il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Là, on parle non pas du football en général, on parle du football professionnel. C'est-à-dire, on parle de gens qui ont choisi, par leur talent, par leur mérite, de devenir footballeurs professionnels et qui participent d'un sport qui s'est mondialisé et qui est une sorte de spectacle sportif. Donc, on est dans des critères de recrutement, de choix, qui sont des critères évidemment sportifs, mais qui peuvent introduire d'autres types de critères. Parce que quand vous voulez avoir une équipe mondialisée, quand vous voulez vendre des droits, par exemple, de télé en Chine, en Amérique du Sud, c'est bien d'avoir un Asiatique, c'est bien d'avoir quelqu'un d'Amérique du Sud.
C'est indéniable que le talent se dissocie de la valeur économique du joueur. Que le joueur pourra coûter plus cher parce qu'il a plus de followers sur Instagram ou sur Facebook, que le joueur pourra coûter moins cher parce qu'il est d'une nationalité faible sportivement, footballistiquement, que le joueur pourra coûter plus cher parce qu'il est plus joli qu'un autre, que le joueur pourra coûter plus cher parce qu'il est plus connu, parce qu'il est plus de presse.
Confirme que c'est quand même marginal le critère.
Alors,
beauté,
pour vous dire la vérité,
quand même
49,
un critère marginal, ça peut intervenir.
49% de la valeur d'un joueur est déterminée par des valeurs extra-sportives. Beauté, nationalité...
Enfin, très honnêtement, je vous fais confiance, vous êtes économiste, je ne sais pas d'où ça sort.
C'est une étude qui a été réalisée en Bundesliga pour la saison 2008-2009, dont j'ai oublié les économistes, mais qu'on pourra retrouver, qui prouve qu'en ayant étudié à la fois les rémunérations des joueurs et l'ensemble des variables à la fois sportives, postes, compétences sur le terrain et autres, et extra-sportives comme la beauté, comme la nationalité, comme le fait de faire des unes de presse, Press People notamment, comme le fait d'être marié avec une star de télé-réalité ou autre, le fait qu'il soit connu pourra jouer sur sa valeur économique.
Mais encore une fois, nous sommes dans un univers, alors on peut le contester, mais c'est la réalité aujourd'hui, d'un sport-spectacle.
Justement.
Et donc quand vous êtes une star, Star, ça veut dire non seulement être très bon joueur, mais ça veut dire aussi avoir une vie. Il n'y a pas très longtemps à Paris, on a eu quelqu'un qui s'appelle Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'est une star. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était non seulement fort sur le terrain, mais qui, par sa personnalité, par sa façon de s'exprimer, générait autour de lui bien autre chose.
À partir de ça, vous êtes d'accord pour dire que cette starification de joueurs pourrait être une hyperinflation incontrôlée. Je suis d'accord, entièrement d'accord avec vous pour dire que les stars apporteront plus d'argent, apporteront plus de supporters, plus de ventes de billets et autres.
Vous verrez
mais
à la fin
de la starification provoque de l'inflation.
Aujourd'hui, on a beaucoup parlé du transfert de Neymar et du coup. À la fin de la saison, on pourra commencer à voir, pour le Paris Saint-Germain, quel est le retour sur investissement. Or aujourd'hui, déjà, en termes médiatiques, les deux mois où Neymar a été acheté par le Paris Saint-Germain a produit un buzz mondial
On parle énormément du Paris Saint-Germain, Philippe Diallo, mais les clubs professionnels que vous représentez, est-ce qu'ils vont tous aussi bien? Ils n'ont pas tous de l'argent venu du Qatar, venu de Chine, venu de Russie.
Là aussi, de la même manière qu'il y a une segmentation des joueurs, c'est-à-dire il y a des joueurs stars, il y a des joueurs bons, et puis il y a des joueurs qui sont un peu moins bons, et puis il y a des joueurs qui sont des joueurs coéquipiers. De la même manière, il y a des clubs qui participent notamment aux grandes métropoles. Si vous regardez aujourd'hui le football, les grands clubs, c'est les grandes métropoles. Il n'y a pas d'exception quasiment dans le monde aujourd'hui. C'est Munich, Manchester, Paris, Madrid, Milan. Bon, donc ça veut dire que pour les clubs qui sont dans des villes plus moyennes ou petites, eh bien, il faut trouver un modèle économique différent parce qu'ils ne peuvent pas justement acheter Neymar. Et c'est là que se pose d'ailleurs la question de la régulation et de la solidarité, parce que pour pouvoir faire une compétition, il faut être plusieurs.
Alors justement, on va en parler. Comment réguler ce marché du football? On continue notre débat.
Le débat du jour sur RFI. Bruno Faure.
Al Paris Saint-Germain, le hemos pillado haciendo pipi en la cama. Oh non, et la piscine.
Le PSG s'est fait prendre en train de pisser au lit ou dans la piscine. Des propos polémiques début septembre du président de la Ligue de football espagnole après le transfert astronomique de Neymar de Barcelone à Paris. Frustration, mais aussi un appel à réguler davantage le monde du football. Il avait raison, selon vous, Pierre Rondeau. Il avait raison, Javier Tebas.
Il a raison, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait dans son pays en Espagne. Il faut quand même rappeler que Barça et le Real sont les deux clubs les plus endettés d'Europe. Donc, vouloir imposer une régulation pour dénoncer le PSG, qu'il regarde aussi ce qui se passe dans son pays. Je suis pour une régulation justement face à cette dette qui explose et face aux inégalités qui peuvent exister entre les différents genres de football. Une régulation européenne, ou en tout cas une régulation mondiale. Il faut que ça vienne des instances dirigeantes du football, il faut que ça vienne du monde, il faut que ça vienne de la FIFA, il faut que ça vienne de l'UEFA, et il faut justement éviter de lutter contre cette hyperinflation galopante, contre cette probable bulle, et contre ces inégalités qui ne cessent de justement de ternir l'image du football.
Le mot a encore été prononcé, Philippe Diallo. Vous dites qu'il faut quand même réguler.
Je l'ai récusé tout à l'heure, ce terme, je continue à le récuser. Je ne pense pas qu'on est dans une bulle, on est aujourd'hui dans une croissance qui, pour beaucoup d'aspects, est une croissance saine et qui, je l'espère, va être durable.
Alors comment on régule?
Par contre, et c'est là le point, ce qui est important, encore une fois, c'est que la compétition reste attractive. Pour qu'elle soit attractive, il faut qu'il y ait une incertitude dans les résultats, dans les compétitions. Et donc, effectivement, ça veut dire que la question de la répartition des revenus est une question majeure. On n'a pas attendu...
Donc il faudrait faire comme aux États-Unis dans le sport américain.
D'ailleurs, c'est pour ça, juste si vous me permettez une petite incidence, que vous avez cité le président de la Ligue espagnole, il est pour le moins mal placé pour donner des leçons au football français. Quand on sait que pendant des années, le football espagnol n'a payé ni impôts ni taxes et qu'il a une dette énorme vis-à-vis de l'État espagnol, pour ne citer que cet exemple, et si on citait d'autres exemples, on verrait qu'il y a des clubs espagnols dont on ne sait même pas si les joueurs appartiennent
au club. La régulation du football espagnol n'existait pas jusqu'à très récemment. Je prends par exemple pour les droits de télé et pour la distribution des droits TV. En Liga espagnole, la redistribution était parfaitement inégalitaire, où le Barça et le Real s'accaparaient à eux seuls, plus de 50% de la valeur de l'ensemble des droits.
Pierre Rondeau, l'exemple américain.
Pour moi, l'exemple américain est parlant.
Avec le salary cap, on régule les salaires comme ça, ce n'est pas pas toujours la même équipe qui gagne.
Le modèle, alors déjà clairement en termes d'intensité compétitive et en termes d'équité compétitive, le modèle américain est le plus performant au monde. Hein, je pense par exemple à la NHL en hockey. La NHL est le championnat de sport le plus incertain du monde, où jamais on n'a jamais un champion similaire année après année. On n'a jamais le même champion année après année. Les droits télé sont distribués de manière parfaitement égalitaire. Tout le monde a la même somme, quel que soit le classement. Il y a un salary cap, il y a une luxury tax, il y a un plafonnement des transferts, il y a une draft.
Et on reverse aussi pour la formation. Et ça, c'est important. Est-ce que ça existe assez en France?
Je pense qu'il faudrait nuancer d'abord l'aspect américain, parce que vous parliez beaucoup des montants des salaires. Je pense que si on regarde les footballeurs américains ou les basketteurs de la NBA, les montants des salaires sont largement au moins comparables à ceux du football.
Ils sont extrêmement élevés, mais je pense qu'il faudrait... les retombées économiques sont très importantes.
Mais nous avons des retombées économiques très importantes. Les droits de la Ligue des Champions sur le prochain cycle, c'est 3,5 milliards d'euros.
5 milliards pour la NFL.
Donc c'est très important.
Philippe Gallo, est-ce qu'il faut que les riches donnent un peu plus aux petits clubs, donnent un peu plus pour la formation, donnent un peu plus pour s'occuper des joueurs retraités et qui ont souvent des difficultés après?
Mais aujourd'hui, le football, encore une fois, est un système de solidarité, mais qui est exceptionnel.
Exceptionnel. En France, en tout cas, en France.
En France, mais même à l'étranger. Ben, je vais prendre un exemple étranger. Aujourd'hui, la Première Ligue, qui génère à peu près 3,5 milliards de droits télé, le partage se fait dans une clé de répartition de 1 à 2, c'est-à-dire que le plus petit club de la Première Ligue touche la moitié de ce que peut toucher à Manchester. Vous connaissez des systèmes de solidarité aussi égalitaires? Et ça, c'est vrai en Angleterre, mais c'est vrai en Allemagne. Et en France, nous venons, il y a moins d'un an, de voter un dispositif qui permet de réduire, on était à peu près un ratio de 1 à 4.1, on va le réduire progressivement à 3, puis à 2,5. Ouais. Sincèrement, si les écarts de revenus...
Mais c'est la réalité. Ce qui m'inquiète, bien évidemment, je vais pas nier l'évidence, en France, on est plus égalitaire que d'autres, en Angleterre, c'est pareil. C'est à l'échelle européenne qu'il faut que le travail soit fait. C'est à l'échelle européenne, pas que sur les droits TV, mais aussi sur les salaires, sur la redistribution, à la fois des salaires et de l'argent qui est généré par le football, pour à la fois éviter justement cette probable bulle spéculative si elle est là, mais aussi pour soutenir les footballeurs démunis, pour soutenir le football amateur, pour soutenir la formation, pour soutenir la reconversion.
Mais encore une fois, tous les objectifs que vous indiquez, je les partage et le football les partage. Je veux juste vous signaler qu'ils existent.
La réalité n'est pas toujours...
Non, mais je veux juste... Mais si, la réalité, justement, peut-être qu'elle est méconnue, mais en tout cas, elle existe. Aujourd'hui, quand on parle... vous parliez de formation. Le football a mis en place depuis 10 ans des indemnités de formation sur l'ensemble des transferts internationaux. Ça veut dire que le moindre petit club d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud qui a formé un joueur retouche des sommes sur ces éléments-là.
Après, ce qui est indéniable...
Nous sommes dans un dispositif, encore une fois, où 5% du montant des transferts mondiaux sont reversés à l'ensemble des clubs conformés des joueurs. Je rappelle que le montant des transferts cet été, c'est 5,1 milliards. Donc, ça veut dire qu'il y a 5% de ces sommes-là qui reviennent aux clubs conformés des joueurs. Citez-moi dans le monde des exemples de solidarité aussi marquée.
Messieurs, il nous reste une petite minute. Pierre Rondeau, vous appelez une opération main propre dans le football contre la corruption.
J'appelle à une action mondiale, pas une action nationale.
Je parle de la corruption. Hein.
Pour lutter contre la corruption, pour lutter contre tous les méfaits du football et contre toutes les défaillances, mais oui, à une opération main propre mondiale.
On en parle assez de corruption à l'échelle mondiale, Philippe Gallo?
Bah, sincèrement, si vous avez pas en tête ce qui s'est passé à la FIFA il y a peu de temps, c'est donc effectivement le travail est fait à la fois par la justice.
On se rend compte qu'avec les droits TV, il y a encore quelques affaires qui traînent.
Oui, mais après, citez-moi des activités humaines où il n'y a pas de dérive.
C'est ça, donc voilà. C'est dès lors qu'il y a de l'argent, forcément il y a de la corruption.
Donc il y a évidemment ce type de dérive. Simplement, je pense qu'aujourd'hui, contrairement à ce qui peut se véhiculer, c'est que le football, dans beaucoup d'ans, est en avance justement dans la prise en compte
parce
des problèmes de corruption et de régulation.
Supporté par 3 milliards de personnes.
10 secondes, l'initiative de Juan Mata, le joueur espagnol qui veut reverser 1% de son salaire, qui appelle les autres à faire de même.
Coup publicitaire, mais bonne initiative.
Philippe Gallo,
bravo à lui.
Merci à vous deux, Pierre Rondeau, auteur de cet ouvrage cette année. Pourquoi les tirs au but devraient être tirés avant la prolongation? Merci à Philippe Gallo, directeur général de l'Union des clubs professionnels français. À demain pour un nouveau débat sur RFI.